Bonjour à tous, vous écoutez notre édito du jour, je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Alors Claire, on a fait le tour des nouveautés des dernières 24 heures, et ce qui ressort, c'est quand même une idée très claire, reprendre le contrôle de sa machine. Que ce soit pour gagner du temps, pour la confidentialité, ou juste pour le plaisir des yeux.
Exactement. On a choisi une poignée de lancements qui nous semblent répondre à de vrais problèmes d'utilisateurs, avec des solutions différentes les unes des autres, et on va décortiquer chacune à qui ça s'adresse, ce que ça change par rapport à ce qui existe déjà, ce qu'on sait vraiment et ce qu'on ne sait pas encore. Parce que tout ce qu'on va citer vient des descriptions des créateurs et il faut les prendre comme des promesses, pas comme des résultats vérifiés.
C'est parti. Alors commençons par quelque chose de très concret, les petites frictions de la journée de travail. La première, c'est un outil gratuit qui permet de quitter toutes ces applications d'un coup, depuis la barre des menus de macOS.
Et c'est intéressant parce que c'est un problème que tout le monde connaît. En fin de journée, vous voulez fermer vos 15 applications et là vous faites commande Q à répétition, où vous éteignez sauvagement, là, un clic dans la barre des menus, et tout se ferme. Ce qui distingue ce petit outil, c'est qu'il n'est pas limité à macOS, il fonctionne aussi sur Windows et Linux, et il y a une interface en ligne de commande. Donc ça peut s'insérer dans un script, dans une routine d'automatisation. C'est gratuit, donc l'essai ne coûte rien.
Ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est comment il gère les applications qui demandent de sauvegarder, ou celles qui sont récalcitrantes. Le créateur ne détaille pas ça. Mais comme problème utilisateur, c'est limpide et la solution est minimale. Ça, j'aime bien.
Restons dans les frictions quotidiennes. Deuxième problème, les réunions manquées. Vous êtes en mode concentration, vous travaillez, et une réunion arrive sans que vous ne vous en rendiez compte. Un développeur a fait une application Mac qui transforme votre calendrier en alarme plein écran.
Et le détail qui change tout, c'est que l'alarme s'affiche même quand le mode concentration est activé. C'est exactement le cas où les notifications normales vous lâchent. Et côté données, l'application indique que tout reste stocké sur l'appareil, ce qui est plutôt rassurant pour un outil qui lit votre calendrier.
Ce que ça change par rapport aux alertes standards du calendrier, c'est l'impossibilité physique de rater l'alerte. Un plein écran, c'est pas un badge discret. Les questions ouvertes. Est-ce que c'est configurable? Est-ce que ça dérange pour les réunions optionnelles? Ça, la description ne le dit pas. Mais pour quelqu'un qui passe sa journée en concentration, c'est une réponse directe à un vrai problème.
Et toujours sur ce thème de la personnalisation du Mac, il y a un lancement plus ambitieux. Une application qui remplace complètement le dock, à 14,99€.
Là, on parle de remplacer un composant système de base. L'application propose des widgets directement dans le dock et un aperçu des fenêtres ouvertes, donc vous survolez une icône et vous voyez ce qui est ouvert, un peu comme ce qu'on peut avoir sur d'autres systèmes. Le problème est réel pour tous ceux qui trouvent le dock de macOS limité depuis des années. Mais on est sur un remplacement système et c'est là qu'il faut être prudent. La vraie question, c'est la stabilité et la façon dont ça suivra les mises à jour de macOS. Ce genre d'outil vit ou meurt selon la solidité de son intégration. À suivre donc.
Oui, et c'est valable pour les trois outils qu'on vient de citer. Ce sont des remplacements ou des ajouts au système, et leur adoption dépendra de leur fiabilité dans le temps. Bon. Et ça nous amène tout naturellement au sujet suivant. Parce que si votre Mac devient un poste sur mesure, la question du matériel que vous partagez entre plusieurs machines se pose vite.
Alors voilà un cas très précis. Vous avez un Magic Keyboard et une Magic Mouse, et plusieurs Macs. Une application à 14,99$ en achat unique permet de basculer instantanément le clavier et la souris d'un Mac à l'autre en Bluetooth. Et le détail intéressant, pas besoin de compte Apple ID.
C'est un cas d'usage très ciblé, les gens qui ont plusieurs Macs côte à côte, un fixe et un portable par exemple. Le logiciel officiel d'Apple pour ce genre de bascule existe, mais il passe par leur écosystème et leur compte. Ici, la promesse, c'est la bascule directe en Bluetooth, sans compte, avec une licence perpétuelle, pas d'abonnement. Pour qui a déjà le matériel, 14,99$ une fois, c'est un calcul simple.
Les limites, on ne sait pas comment ça gère les situations où les deux Macs sont loin l'un de l'autre, ou des configurations plus exotiques. Et c'est une promesse du créateur, la bascule instantanée. Il faudrait tester en conditions réelles pour le vérifier. Mais conceptuellement, c'est très propre.
Et le compagnon naturel du clavier partagé, c'est le presse-papier partagé. Là, on a un projet open source qui synchronise votre historique de presse-papier entre vos appareils, avec deux arguments forts, un chiffrement de bout en bout et une recherche sémantique.
La recherche sémantique, c'est le vrai différenciateur. Vous cherchez pas le texte exact que vous avez copié hier, vous cherchez ce paragraphe sur la facturation, et le système le retrouve par le sens. Ça, les presse-papiers classiques ne savent pas le faire. Et le chiffrement de bout en bout répond à une objection évidente. Le presse-papier contient des mots de passe, des données personnelles, des extraits de mails. Synchroniser ça en clair, ce serait une très mauvaise idée. Le fait que ce soit open source permet, au moins en principe, de vérifier les claims de confidentialité.
Et vous remarquez le fil rouge, le clavier qui suit l'utilisateur d'une machine à l'autre, le presse-papier qui suit l'utilisateur d'une machine à l'autre. Dans les deux cas, vos outils s'adaptent à vous, et pas l'inverse. Sauf que le second ajoute la confidentialité comme argument central. Et ça, c'est pas un cas isolé, c'est même une tendance plus large qu'on voit dans cette sélection. Passons là.
Oui, parce qu'en regardant l'ensemble des lancements, on se rend compte que plusieurs outils misent sur exactement la même chose, un traitement entièrement local sur l'appareil, sans cloud, le presse-papier chiffré qu'on vient de voir en fait partie, mais il y en a d'autres.
Prenons-les un par un. D'abord, un outil d'annotation vidéo. Il permet de scruber une vidéo image par image et de dessiner des annotations à la main, le tout à 60 images par seconde. Et l'argument massue, tout le traitement est local. Pour qui ? Les gens qui font des retours sur des vidéos, des tutoriels, des démonstrations. Ce que ça change par rapport aux outils cloud. Pas d'upload de votre vidéo, pas d'attente, et c'est gratuit.
Ensuite, une application de tâches et de calendrier qui embarque une IA exécutée entièrement sur l'appareil. La particularité, c'est que chaque tâche a son propre chat. Vous discutez avec l'IA à propos d'une tâche précise. Et l'application est gratuite en accès anticipé. Là encore, l'argument de l'IA locale, c'est la confidentialité, mais aussi la latence, pas d'aller-retour réseau, et l'absence d'abonnement, au moins pour l'instant.
Troisième exemple, plus surprenant. Un fond d'écran Mac qui réagit à la musique en cours de lecture. L'analyse audio est faite en local. Le rendu passe par Metal, l'API graphique d'Apple. Achat unique de 24,98$. C'est purement esthétique, mais techniquement, c'est la même philosophie. Pas de cloud, tout se passe sur votre machine.
Et rappelons le calendrier alarme dont on parlait tout à l'heure. Ces données restent aussi sur l'appareil. Donc on a 5 outils, des catégories complètement différentes. Productivité, création, décoration, avec la même architecture, le traitement local.
Pourquoi cette tendance ? 3 raisons qui reviennent. La confidentialité, la latence et l'absence d'abonnement récurrent. C'est un positionnement anti-cloud très net. La vraie question, la seule qui compte vraiment à terme, c'est jusqu'où l'IA locale peut-elle rivaliser avec le cloud ? Une IA de tâches qui tourne sur votre Mac, elle a des limites de puissance. Le créateur le revendique comme un avantage, mais la comparaison en conditions réelles reste à faire.
Et d'ailleurs, à l'opposé de ce spectre, il y a des produits qui assument totalement l'IA comme service payant hébergé. Et c'est là que le débat devient intéressant. Deux exemples très différents.
Le premier, un service à 7,99 livres par mois qui transforme des webhooks en notifications iPhone en passant par l'IA. Concrètement, vous recevez des événements en JSON d'un système de monitoring, d'un formulaire, peu importe, et l'IA les traduit en notifications lisibles sur votre iPhone. Et il y a une fonction qui mérite qu'on s'y arrête, le masquage des données sensibles. Le service masque les informations confidentielles avant qu'elles n'arrivent sur votre téléphone.
Attention à un point pratique, ce service exige iOS 26. C'est donc réservé aux versions très récentes du système. Ça, c'est une limitation réelle pour l'adoption. Et sur le fond, ce service pose une question intéressante. Pour traduire des webhooks en notifications lisibles, il faut bien que quelqu'un, ici une IA hébergée, lise le contenu. C'est exactement ce que les outils locaux qu'on vient de voir refusent de faire. Deux philosophies face à face.
Le deuxième exemple, c'est une IA destinée aux commerciaux. Elle suggère la prochaine action à mener, et son modèle économique est instructif. Les données de contact et l'analyse d'intention sont gratuits, mais les utilisateurs actifs, ceux qui agissent vraiment, payent un abonnement.
C'est un modèle de gratuité sélective. Vous explorez gratuitement. Vous payez quand vous en tirez de la valeur mesurable. Et là, on a le même fil rouge, le masquage des données sensibles d'un côté, la gratuité sélective de l'autre. La question à suivre, c'est de savoir si ces deux mécanismes deviennent la norme du marché de l'IA en tant que service. Pour l'instant, ce sont deux choix isolés de deux créateurs.
Bon, l'IA comme service grand public, on a fait le tour. Passons maintenant à un public très différent, les développeurs. Et là, on a 3 outils qui, chacun à leur manière, relient l'IA aux outils réels du quotidien.
Le premier est un plugin pour Photoshop qui donne accès à plus de 23 modèles d'IA directement dans l'application. Et il y a une fonctionnalité pensée pour les équipes, le partage de workflow. Donc si votre équipe a trouvé une chaîne de modèles qui marche, vous pouvez la partager. C'est un choix pragmatique. Au lieu de faire sortir les images de Photoshop pour les passer dans des outils d'IA séparés, on ramène l'IA dans l'outil où les gens travaillent déjà.
Le deuxième est plus technique, un serveur MCP. MCP, c'est ce protocole qui permet à des assistants IA de piloter des outils, qui exécutent des tests de bout en bout d'applications Android. Et la façon de l'utiliser, c'est du langage naturel. Vous décrivez en anglais ce que l'application doit faire, et l'IA pilote le test, le tout en local. La couverture iOS est annoncée pour plus tard, c'est une limite claire à connaître aujourd'hui.
Et le troisième, c'est peut-être le plus ambitieux, un générateur open source, sous licence MIT, qui prend une spécification d'API au format OpenAPI entre autres, et en produit 3 choses. La documentation, des SDK dans 11 langages de programmation et des serveurs MCP.
Là, il faut mesurer ce que ça veut dire. Traditionnellement, si vous publiez une API, générer des SDK dans 11 langages et maintenir la documentation, c'est un travail énorme et répétitif. Ici, tout est dérivé automatiquement de la spécification. Et surtout, le générateur produit aussi des serveurs MCP, donc votre API devient immédiatement pilotable par un assistant IA. La boucle est bouclée. L'IA peut tester des applications Android et n'importe quelle API bien spécifiée peut être connectée à l'IA. C'est ça le rôle central que joue le protocole MCP dans ces trois outils.
La limite évidente, c'est la qualité de ce qui est généré. Une documentation autogénérée et des SDK autogénérés, ça vaut ce que vaut la spécification de départ. Le créateur ne présente pas de résultats vérifiés sur des API réelles complexes. Mais le projet étant open source et MIT, il est vérifiable et réutilisable librement, ce qui est un bon signe de sérieux.
Et d'ailleurs, tout ce stack d'outils que les développeurs accumulent, la question suivante, c'est comment le partager? Et là, deux lancements répondent exactement à cette question, de deux manières différentes.
Le premier, un réseau social où les développeurs partagent leur stack d'outils. Le principe tient en une phrase, un seul lien de profil qui présente tous les outils que vous utilisez. Et détail qui fait écho à ce qu'on vient de dire, le service inclut son propre serveur MCP. C'est gratuit. Donc, votre profil d'outil devient lui-même quelque chose qu'un assistant IA peut consulter.
Le deuxième, c'est un service gratuit pour les fichiers Markdown et TextBundle. Partager, faire relire et publier directement en blog, avec une API complète. Markdown, c'est le format de travail des développeurs et des gens qui écrivent de la documentation. Et TextBundle résout le problème classique du Markdown, embarquer les images avec le texte. Donc du brouillon à la relecture jusqu'à la publication, dans un seul service, gratuit, avec une API pour automatiser.
Ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux. L'un rend vos outils visibles, l'autre rend votre travail écrit visible. Deux réponses aux mêmes besoins, montrer ce qu'on fait, avec des angles complètement différents. Ni l'un ni l'autre ne prétend remplacer les réseaux sociaux existants et on ne sait pas encore comment ces communautés vont se former. Mais pour qui produit déjà en Markdown, le second ne demande aucun changement d'habitude.
Bien, après l'outillage sérieux, un dernier pan, plus léger mais tout aussi révélateur. Le bureau lui-même devient un terrain de jeu, et c'est largement porté par l'open source.
Commençons par le plus charmant, une loutre en pixel art qui se promène sur votre bureau. Elle suit le curseur et réagit quand vous tapez au clavier. C'est open source et gratuit. C'est une mascotte, un compagnon de bureau, ça ne résout aucun problème de productivité, et c'est très bien comme ça.
Ensuite, un tableau de bord macOS au style des Mac classiques. Les vieux Mac, ceux des années 80-90. L'horloge, la météo, le morceau en cours de lecture, les statistiques système, le tout habillé de rétro. Open source et gratuit, lui aussi. Et notez le parallèle avec le dock qu'on évoquait au début. Ce sont deux façons de reprendre en main l'interface de son Mac. L'une payante et fonctionnelle, l'autre gratuite et esthétique.
Et pour finir, un jeu de la conquête de territoire sur des cartes de ville réelles. Jusqu'à 8 joueurs dans le navigateur, gratuit et sans inscription. Pas de compte à créer, vous ouvrez la page et vous jouez. C'est le genre de jeu à session courte parfait pour la pause déjeuner.
Ce qui relie les trois, c'est que ce sont des projets open source qui font sourire et qui personnalisent la machine. Et il y a une vraie question de fond là-dedans, le retour du rétro comme esthétique du desktop. La loutre pixel art, le tableau de bord façon Mac classique, le pixel art et le rétro, c'est devenu un langage visuel à part entière. À suivre pour voir si ça s'étend au-delà des projets passion.
Alors, pour résumer ce tour d'horizon, sans lister bêtement, on a vu des outils qui éliminent les frictions du quotidien, des outils qui font voyager vos périphériques et vos données entre vos machines, une offensive du traitement local face au cloud, l'IA comme service payant avec ses vrais débats tarifaires et de confidentialité, l'irruption du protocole MCP dans les outils de développeurs, et enfin le bureau qui se réapproprie le rétro et le jeu.
Et si on devait garder une seule grille de lecture pour la suite, regardez où le traitement se passe, sur l'appareil ou dans le cloud, et regardez le modèle économique, abonnement ou achat unique. Ces deux axes-là dessinent déjà les camps dans cette sélection, et ils vont probablement structurer les prochains mois.
Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon. Ici, c'était Claire Martin.
Et Nicolas Moreau. À très vite.
Au revoir à tous.